Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 25 septembre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, comment va la vie dans notre environnement de baisse de taux ou autrement dit, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la semaine dernière?
Donc, mea culpa en partant, parce que la semaine passée, sur le balado, j'ai mentionné que je miserais un petit 2$ sur une baisse d'un quart de point de la Réserve fédérale. C'est le désavantage d'enregistrer le matin à 8h quand l'annonce se fait 2h, à 2h l'après-midi. Alors, je dois 2$. La baisse de taux a finalement été de 0,5 point. Ceci dit, donc, la Réserve fédérale baisse d'un 0,5%, mais comment est-ce que les marchés financiers ont réagi? Le jour même, les marchés ont terminé quand même en assez forte baisse, le temps que la nouvelle peut-être soit absorbée, puis ensuite les bourses ont remonté quand même de façon assez intéressante. Cette semaine, le S&P 500 aux États-Unis est en hausse de 1,7%, le Nasdaq en hausse de 2,5%, le TSX en hausse de 1,2%. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand les taux d'intérêt aux États-Unis baissent? Généralement, ça a un impact sur la devise. Notre dollar canadien est passé de 73,6 à 74,4. C'est même pas une scène, Sarah, mais c'est quand même 1%. Ben 1%, ça fait que le rendement du S&P 500 en dollars canadiens, en réalité, il n'est pas de 1,7%, il est seulement de 0,7%. Donc, on perd sur le rendement des titres américains quand notre dollar canadien augmente. Fort heureusement, ben, pour ceux qui ont des vacances prévues dans les prochaines semaines ou prochains mois, ben, ça va peut-être coûter un petit peu moins cher de convertir des devises. Donc, les taux d'intérêt aux États-Unis, donc la Réserve fédérale baisse les taux d'un demi. Par contre, les obligations de 10 ans sont passées de 3,64 à 3,74. Là, comment ça que les taux d'intérêt 10 ans augmentent alors que le taux interbancaire là, diminue de 0,5? Bien, les taux 10 ans reflètent les anticipations à long terme du marché. Alors, ce que les intervenants des marchés financiers semblent anticiper, bien, c'est que cette baisse-là va peut-être effectivement éviter une récession et peut-être créer soit un regain de l'inflation ou du moins un moindre ralentissement économique. Donc, les taux d'intérêt 10 ans se sont réajustés à la hausse. On verra dans les prochaines semaines ou prochains mois qu'est-ce qui va arriver. Pour l'instant, les anticipations sont pour d'autres baisses de taux et même possiblement une autre baisse d'un 0,5% à la prochaine réunion du mois de novembre. C'est les grandes lignes pour ce qui est des marchés financiers. On a aussi là, hier la Chine qui a annoncé, on sait qu'en Chine, là, l'économie roule très au ralenti avec toutes sortes de problèmes structurels. Donc, ils ont annoncé là, un gros package pour stimuler leur économie. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être assez? Ben, l'avenir nous le dira, là, mais c'est quand même, c'est 1,25 milliards de personnes. Donc, c'est une économie qui est très importante d'un point de vue mondial. Je crois qu'ils sont encore la deuxième économie en importance au monde. Donc, si cette économie-là peut réaccélérer, ça va certainement être bénéfique pour les marchés boursiers.
Merci, Martin. Puis, je vais collecter le 2$. aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet crucial pour des millions de Canadiens, dont plusieurs de nos clients, les fonds de pension.
Ouais.
Que vous soyez à l'aube de votre retraite ou que vous commencez à peine votre carrière, comprendre comment fonctionnent les fonds de pension au Canada est primordial. Alors, Martin, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un fonds de pension? Quels sont les différents types de fonds de pension?
Bien, un fonds de pension, c'est de l'argent là, qui est mis de côté dans le but de la retraite, donc souvent avec son employeur, là, donc ce qu'on appelle communément notre fonds de pension. Bien souvent, les gens vont penser au revenu mensuel que notre ancien employeur va nous payer le restant de nos jours. En réalité, il y a deux types de fonds de pension. Il y a des fonds de pension à prestations déterminées. Donc, la prestation étant le revenu mensuel qui m'est promis. Ce revenu mensuel-là, il est basé sur le salaire que j'aurai gagné durant ma carrière. Certaines, c'est sur les 5 meilleures années, le salaire moyen, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de formules qui existent, mais toujours basé en fonction du salaire et du nombre d'années de service au sein de l'entreprise. Alors, sans égard au marché financier, au taux d'intérêt ou à quoi que ce soit. C'est une formule mathématique en fonction de notre salaire et nos années de service qui nous promettent un revenu mensuel le restant de nos jours. Dans le cas de l'autre version qui existe, c'est un régime de pension à cotisation déterminée. Alors, dans ce cas-ci, on va accumuler de l'argent dans le régime avec l'employeur. Bien souvent, l'employeur va également cotiser dans le régime. Et on va donc accumuler un montant d'argent, mais le risque financier de la performance boursière, entre autres, le rendement qu'on va obtenir sur nos placements, déterminera combien on va être capable de se verser à la retraite. Mais il n'y a aucune promesse. Donc, c'est vraiment, on accumule de l'argent, donc les cotisations sont déterminées, mais on ne sait pas exactement combien ça va nous payer une fois à la retraite. Donc, ce sont les deux principaux régimes de retraite, formes de régime de retraite qui existent auprès des employeurs.
Parfait. Et quels sont les principaux types de fonds de pension au Canada? Donc, pas juste pour les employeurs, mais vraiment au Canada de façon générale.
Donc, au Québec, on a la Régie des rentes du Québec, communément la RRQ. C'est un régime de retraite, donc c'est un régime, c'est pas une prestation de gouvernement, là, c'est un régime dans lequel on cotise quand on travaille et puis éventuellement on va recevoir une prestation en fonction de nos années de service, donc du nombre d'années dans lesquelles on a cotisé et de notre âge. Donc, pour le reste du Canada, c'est le régime de pension du Canada. C'est essentiellement la même affaire, là. Donc, le Québec a la RRQ, c'est nous qui l'administrons nous-mêmes. Le reste du Canada, c'est administré par le régime de pension du Canada. On a au Québec très connu la REGOP, le régime de retraite des employés gouvernementaux et des organismes publics. Donc, beaucoup, beaucoup de monde au Québec sont sous le régime de la REGOP. Le régime de pension le plus important au Canada, le plus gros régime de pension, communément appelé les teachers, donc le régime de pension des enseignants de l'Ontario, c'est en dollars là, et en nombre de bénéficiaires là, le plus gros régime de pension au Canada.
Et pourquoi les fonds de pension sont importants pour l'économie canadienne?
Ça, c'est une question fondamentale. Ils gèrent des milliards de dollars. Et puis, faut garder en tête comme salarié d'une entreprise, quelqu'un qui cotise toute sa vie là, dans son régime de pension. Puis après ça, on va regarder les financiers de Wall Street. C'est qui les financiers de Wall Street? Ben c'est votre fonds de pension. C'est eux qui ont le principal argent. Donc, ils gèrent effectivement des milliards de dollars d'actifs. De par leur taille et leur actionnariat dans beaucoup d'entreprises, ils ont également un pouvoir d'influencer la direction des entreprises. Donc, si on voit des entreprises prendre un virage de plus en plus vert, ben c'est entre autres en raison des pressions des fonds de pension qui exigent des entreprises qui aient un biais peut-être un peu plus socialement responsable dans la conduite des opérations de l'entreprise. Donc, très important, ce sont des entreprises. Donc, les fonds de pension vont être très présents dans les marchés boursiers. Ils vont être également très présents dans les marchés obligataires, mais également dans les infrastructures et dans l'immobilier. Donc, au Québec, on n'a qu'à penser peut-être à Ivanhoé Cambridge, qui est la division immobilière de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, qui est le gestionnaire là, qui gère l'argent de la RRQ, ils vont littéralement détenir des immeubles. Là. Donc, ce n'est pas que des titres financiers. Ils vont détenir parfois des immeubles, des aéroports, des forêts, des lignes de transmission électrique. Donc, toutes sortes d'infrastructures comme ça. Donc, les fonds de pension, c'est vraiment non seulement important pour les salariés pour assurer leurs revenus, mais pour tout le fondement de l'économie, ils sont souvent présents dans toutes sortes de projets d'investissement, d'infrastructures, et ce sont des entités qui n'ont pas d'horizon de placement. Donc, tu sais, nous, toi et moi, Sarah, là, investir dans un placement qui va nous rapporter juste dans 20 ans pour les 50 prochaines années, c'est pas tant intéressant. On est trop vieux pour ça, alors qu'un fonds de pension va avoir un horizon de 100 ans et plus. Là. Donc, ils n'ont essentiellement pas d'horizon de placement. Donc, ils peuvent être des investisseurs à très, très, très long terme pour le bénéfice des cotisants du fonds de pension.
Et pour le bénéfice du Canada.
Exact.
Quels sont les défis, les enjeux des fonds de pension?
Ben le principal défi des fonds de pension, c'est le vieillissement de la population. On parle, tu sais, en 2030, 2030, c'est demain matin, là, ça. C'est dans 7 ans, c'est dans pas longtemps. Là. Ben, 23% de la population aura plus de 65 ans. Et donc, non seulement on aura plus de gens à l'âge de la retraite, mais ces gens-là vivent plus longtemps. Donc, ils sont plus longtemps à la retraite. Donc, si j'ai moins de personnes qui cotisent pour faire vivre plus de gens pendant plus longtemps, et c'est sûr que ça met une pression sur la solvabilité des fonds de pension. Donc, d'où, depuis plusieurs années, on voit une certaine migration des entreprises qui essaient de se sortir de leurs fonds à prestations déterminées, parce que ce sont elles qui doivent financer ces manques-là à l'occasion au profit des fonds de pension à cotisation déterminée, où là, c'est plus à la charge du cotisant là, de s'assurer d'accumuler suffisamment, ou même donc de cotisation REER ou au régime privé.
Parfait. Et que peuvent faire les clients pour planifier leur retraite s'ils ont un fonds de pension? Puis je pense que nous, on peut être beaucoup impliqués dans cette partie-là.
Exact. Donc, et là, très important, là, vous recevez, si vous êtes bénéficiaire d'un fonds de pension pendant votre travail, là, à chaque année ou aux deux ans, vous recevez votre relevé de fonds de pension qui va vous dire, bien, votre âge normal de la retraite, c'est 63 ans et quart, puis vous allez recevoir tel revenu. En réalité, là, la journée de votre retraite, vous allez recevoir un formulaire d'à peu près 14 pages avec 16 options de revenus. J'exagère à peine. Là, souvent, il y a 7, 8, 9 options. Et là, je dois choisir, OK, est-ce que j'ai une conjointe ou non? Si j'ai une conjointe, est-ce que je veux que ma rente soit réversible à ma conjointe? Sinon, ben, elle doit signer pour autoriser qu'elle ne soit pas réversible. Réversible à 50%, 60%, 70%, 100%. Je veux-tu une période de garantie de 0 année, 5 ans, 10 ans? Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on répond en planification financière la plupart du temps, Sarah?
Ça dépend.
Donc, les choix, tu sais, comment quelqu'un qui a peu de connaissances en planification financière peut faire un choix permanent, irréversible pour les 30-40 prochaines années de sa vie, tout seul dans le fond de son salon. Donc, on invite nos clients, quand c'est le temps de faire ces choix-là, envoyez-nous vos documents, on va regarder ensemble, on va vous sortir les 2-3 options qui semblent appropriées pour vous, on va vous parler des avantages et des inconvénients de ces options-là. Ultimement, le choix vous revient, mais avec peut-être un peu plus d'informations pour vous assurer que pour vous, vous avez fait le meilleur choix selon votre situation financière. On a aussi, donc on a mentionné la RRQ qui est un régime de retraite. On a toutes sortes de choix à faire. Et puis là, de plus en plus, c'est assez publicisé que le choix de reporter la rente au-delà de 65 ans est généralement, statistiquement, un meilleur choix. Encore là, ça dépend de votre espérance de vie, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui prend sa retraite en 2024 et qui a 65 ans puis qui décide de prendre sa RRQ, le montant maximum qu'il a le droit, c'est 16 375. Il y a très, très peu de personnes qui ont le montant maximum parce que ça dépend du nombre d'années de cotisation puis du montant qu'on a cotisé. La rente moyenne là, qui est payée, c'est 8 188. C'est la moitié, littéralement. Si on reporte à 72 ans, donc celui qui a 65 ans cette année, il reçoit 16 375 s'il a cotisé au maximum. Celui qui est rendu à 72 ans, parce qu'on peut reporter jusqu'à 72 ans, lui aurait 26 000 par année, pleinement indexé le restant de vos jours. Donc, si on veut gérer le risque de longévité, ben une rente d'employeur, c'est intéressant parce que, évidemment, ça va nous payer tant qu'on est en vie. Alors, si on se rend à 100, 105, 110 ans, l'employeur, à un moment donné, va avoir, entre guillemets, presque hâte qu'on décède là, pour arrêter de payer. La RRQ va quand même aussi venir combler ces besoins-là en étant pleinement indexé. Inversement, ben, le retraité de 60 ans qui est pressé de recevoir sa rente, ben, il va recevoir 10 480 cette année, au lieu de 16 000. C'est quand même, c'est beaucoup là, par année de différence, de recevoir 6 000 $ de moins par année pour le restant de vos jours pleinement indexés. C'est un choix qui est important. On peut pas vous dire c'est quoi le meilleur choix parce qu'on ne connaît pas votre date de décès.
Et on ne connaît pas vos objectifs. Il faut connaître vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs successoraux? Est-ce que vous voulez laisser de l'argent?
Exact. Puis, tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu. T'sais, on a beau vouloir reporter la RRQ, mais si on n'a aucun revenu ben il faut quand même manger 3 repas par jour. Là, donc, il y a des choix. Il y a des fois où on doit faire des choix en fonction du contexte, mais on est là pour vous accompagner dans ces choix-là. S'il y en a qui ont commencé à recevoir leur RRQ, puis finalement, ils disent « j'aurais peut-être dû la reporter », sachez que vous avez 6 mois après le début de recevoir votre rente pour annuler votre demande de recevoir la RRQ. Donc, ceux qui ont commencé à recevoir la RRQ là, en mars-avril cette année, là, vous avez encore... Tu sais, ça achève. Là. Vous avez le droit de changer d'idée puis de dire, tu sais quoi, finalement, je la veux pas, je vais la reporter. Il faut faire quand même rapidement les 6 premiers mois. Ça, c'est... En fait, je ne le savais pas qu'on avait 6 mois pour changer d'idée. Je l'ai découvert en faisant les recherches ce matin.
Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec notre fonds de pension? Parce qu'il y a certaines fonds de pension qu'on peut transférer, qu'on peut...
Exact. Donc, un des choix, quand on prend notre retraite ou quand on quitte un employeur avant l'âge de 55 ans, bien souvent, l'employeur va nous offrir soit de recevoir notre rente plus tard. Là. Donc, mettons, j'ai 52 ans, je quitte mon emploi, je m'en vais travailler ailleurs. Mon fonds de pension va me dire, si tu laisses l'argent avec nous, quand tu auras 65 ans, on va te verser X dollars par mois. Par contre, si tu veux quitter avec l'argent... puis aller transférer cet argent-là auprès de votre institution financière puis la gérer vous-même ou auprès du fonds de pension de votre nouvel employeur, le montant en dollars peut souvent être même assez élevé, là, de 2, 3, 4, 500 000. Donc, encore là, la décision, elle va appartenir au client, mais c'est quoi les pour et les contre de ce choix-là, qui est quand même assez important? Évidemment, si je transfère l'argent auprès de mon institution financière, je garde le contrôle de cet argent-là. J'ai peut-être un peu plus de flexibilité sur les montants, le début des retraits, ainsi de suite. Si je décède, au moins cet argent-là peut être transféré à mes héritiers. Si c'est ma conjointe, tant mieux, mais si j'ai pas de conjointe, ça peut être légué. Ça devient imposable, mais l'autre portion après impôt peut être léguée. Alors que si je laisse avec un employeur, j'ai peut-être moins de contrôle, j'ai peut-être moins d'avantages au niveau de la succession, mais je m'assure, tu sais, peu importe ce que les marchés boursiers vont faire, je m'assure de recevoir un revenu à tous les mois. Donc, une question de tolérance au risque. Encore là, on va vous donner les pour et les contre. C'est pas à nous de prendre cette décision-là, c'est au client, mais en connaissance de cause, quels sont les pour et les contre.
Donc, en sommaire, là, on peut dire, informez-vous sur votre régime de pension. Ça fait partie de votre compensation.
Ouais.
On dit toujours, c'est toujours bon de commencer à épargner tôt et diversifier vos sources de revenus. Même si vous avez un fonds de pension, c'est bon de bâtir un CELI. Donc, exact. Ça, on ne l'a pas mentionné spécifiquement, mais je pense qu'il faut le mentionner parce que souvent, les clients vont dire, j'ai mon fonds de pension, je n'ai pas besoin. C'est le fun d'avoir des revenus qui ne sont pas imposables à la retraite. Consultez-nous, on va vous aider avec vos choix sur les fonds de pension et on peut vous aider avec une planification de retraite pour répondre à plusieurs de ces questions à laquelle on a répondu ce matin avec « ça dépend ».
Exactement.
Merci beaucoup, Martin, pour tous nos clients et partenaires. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.